Voilà, donc le thème choisi pour ce message, c'est la reconnaissance. Alors, je vais commencer par quelques témoignages avec quelques slides qui concernent ces choses que j'ai vécues, qui m'ont interpellé. Voilà. Alors, je dois faire part d'une expérience que j'ai eue. Donc, il y a 3 ans, je me suis fait opérer du pied. Donc, c'était la deuxième opération suite à une opération qui avait raté. Donc, je m'étais fait opérer suite à un hallux valgus qui est une excroissance au niveau du pouce. Et donc, un premier chirurgien qui avait vraiment raté son opération. J'ai fait appel à un deuxième chirurgien réputé. J'ai pris des renseignements à gauche à droite pour savoir la réputation et la qualité du chirurgien. On m'a recommandé un médecin. Et j'ai eu cette opération qui a très très bien marché. J'étais très content. Il me disait, mais sur les 700 opérations que j'ai faites jusqu'à maintenant, c'est une des opérations qui a le mieux réussi. Et c'était compliqué parce qu'il s'agissait de réparer ce que l'autre chirurgien avait fait faux. Donc il n'y avait pas juste l'hallux valgus, il y avait encore des orteils qu'il fallait carrément remettre, raccourcir. Enfin bref, c'était vraiment toute l'architecture du pied qu'il a fallu refaire. Une chose qui m'a frappé, c'est que suite à l'opération, après, quand j'ai commencé ma convalescence, donc j'ai eu rendez-vous dans son cabinet, et voilà ce que j'ai trouvé sur, je vous mens pas, sur un de ses murs. Sur un de ses murs, il n'y avait quasiment pas 1 cm de libre sur la tapisserie et sur le mur. Il y avait partout que des diplômes. Alors vraiment, waouh! Quand j'ai vu ça, je me suis senti tout petit. Je me suis dit, mais dis donc, quelle sommité ce chirurgien. Alors, ce qui n'enlève rien, c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un qui est très humain. Ce qui n'est pas toujours évident hein, quand on est médecin, chirurgien spécialiste, de garder cette humanité avec les patients. C'est quelqu'un, voilà, qui garde aussi un bon contact. Mais j'ai tout d'un coup, je me suis senti petit et surtout, j'ai tout d'un coup commencé à avoir une très très grande estime de ce monsieur, avec tous ses diplômes. On va changer de contexte. Autre expérience, autre gens, autre monde. On va dire un peu, c'est moi, non? Je commence à avoir les cheveux qui disparaissent, peut-être que je vais mettre des tatouages, ça pallierait à ça. Alors, je dois expliquer un peu le contexte. Je travaille donc au cycle de Sécheron, au début de la rue de Lausanne, et puis je vais souvent avec des collègues, avec des amis, donc dans une petite épicerie, pour aller manger à midi, pour aller boire un café. Et à côté de cette épicerie, vous avez un magasin, un atelier de tatouage avec des tatoueurs professionnels, et notamment avec le gérant de ce magasin. Qui est tatoué, je vous mens pas. Alors là, c'est pas la tapisserie, c'est pas le mur où il y a plus un centimètre, mais il y a plus un seul centimètre de peau naturelle. Il est tatoué. Peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est quelqu'un qui est remarquable, qu'on voit donc en ville, quand voilà. Et donc, il est tatoué de la tête aux pieds. Il y a plus un seul espace. Il a en plus changé ses dents. Il a mis des dents en métal. Ben, c'est un peu hardcore. Hein, je veux dire, vous voyez, c'est pas forcément non plus des motifs qui sont très chrétiens, on va bien dire. Hein, donc voilà. Mais ça, je me suis dit, mais je me suis interpellé. Ça m'a fait réfléchir. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce qu'on peut, disons, se faire tatouer comme ça, autant à l'extrême, sur toutes les parties de son corps? Et alors, c'est vrai que c'est un petit peu à la mode. Alors, en général, un tatouage ici ou là, c'est quelque chose qui passe encore relativement bien. Mais là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui était tatoué sur l'entier de son corps. Alors, ensuite, autre monde. Autre diapositive, autant que ça marche. Voilà. Alors, ici. Aussi un témoignage, cette personne que vous voyez en haut à gauche, je l'ai rencontrée à Manor, donc au restaurant de Manor. Et donc tout de suite, évidemment, vu que c'est un personnage public, c'est un personnage qui est connu dans les médias, il était producteur, réalisateur, notamment de l'émission Temps Présent, alors il a pris sa retraite maintenant, mais c'est un visage connu pour ceux qui regardent un petit peu la télévision comme moi. Et puis c'est vrai que quand il est arrivé, il y avait ensuite en plus pas mal de personnes qui étaient là. Je ne sais pas ce qu'il faisait, est-ce qu'il y avait une réunion, est-ce qu'il y avait un repas avec plusieurs personnes. Enfin bon, mais il s'est fait remarquer. On a tous tourné le regard, on a tous regardé. Moi le premier, parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui est connu, qui passe à la télévision. Donc, ce que je voulais montrer par là, c'est que vous avez toutes ces personnes qui ont un rapport plus ou moins important avec la célébrité, avec le fait d'être connu, d'être reconnu. On est d'accord que pendant la période du Covid-19, donc un Alain Berset, un Daniel Cohr, maintenant si vous le croisez dans la rue, vous allez vous retourner, vous allez peut-être leur dire merci parce qu'ils ont en l'occurrence très bien géré cette crise, donc je trouve. Donc voilà, et ça vous avez un petit peu des différentes personnalités du monde du sport, du monde de la politique, on ne connaît que trop bien. Claude François, bon ça c'est une référence à mon enfance parce que quand j'avais 12-13 ans, j'étais complètement fan, c'était mon dieu. Avant de me convertir, c'était vraiment un dieu, je peux vous le dire. Je le dessinais partout, je m'habillais comme lui. Enfin bon, c'était vraiment, j'avais une clo-clo-mania. Donc c'est assez intéressant. Hein, on peut vraiment avoir une passion pour une idole. Alors moi, je sais ce que c'est qu'une idole. Quand il est mort, j'étais désespéré. Je veux dire, je peux comprendre des personnes qui se sont foutues à l'eau et qui ont fait des tentatives de suicide. Ça peut aller très très loin, hein, cette forme d'adulation d'une personne. Hein. Bon, alors voilà, heureusement, après, j'ai pu changer un peu et j'ai changé un petit peu de modèle, on va dire. Voilà, monde du sport, on a le monde des acteurs, etc. Donc voilà, tous ceux-là, ils ont aussi la caractéristique d'être connus, d'être reconnus, d'être estimés aussi dans le monde dans lequel ils évoluent. Alors voilà, donc ça, c'était pour me servir donc d'introduction un petit peu à ce que je voulais dire. J'ai l'impression que toutes ces personnes, finalement, elles ont par leur diplôme, par leur mérite, par les tatouages qu'ils se sont mis, par les qualités musicales qu'on a réussi à faire valoir aux yeux du monde, elles semblent dire j'ai de la valeur, j'existe. Et une des choses que l'homme considère comme de la plus haute importance, c'est d'être estimé dans le regard des autres, c'est de rechercher cette estime, dit Blaise Pascal, un célèbre philosophe et mathématicien du XVIIe siècle. Je peux la chercher au moyen d'études brillantes, en montant les échelons dans la carrière professionnelle, en me faisant un nom dans le monde du sport, de la musique, du cinéma, de la politique, de la contre-culture, dans l'art du tatouage outrancier. Tout cela montre un besoin d'être aimé, valorisé, apprécié dans son être le plus intime. On l'a vu, cette reconnaissance est légitime. J'ai besoin d'être apprécié, j'ai besoin qu'on me reconnaisse dans mes dons, j'ai besoin d'être aimé dans le plus profond de ma personne. Mais la vraie question, peut-être, ou certainement, est de savoir de qui je désire cette reconnaissance. À ce stade, deux versets vont nous éclairer. Le premier verset, dans Galates 1,10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors voilà, donc ça c'était le premier verset. Le deuxième, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors voilà, donc je crois que c'est vraiment une injonction à faire en sorte que cette reconnaissance, alors qu'elle est légitime, c'est normal, dans son travail on cherche à être apprécié, c'est normal aussi d'avoir de l'ambition, mais n'oublions pas que la véritable reconnaissance, cette reconnaissance, c'est surtout la reconnaissance de Dieu, c'est la reconnaissance, je pense que c'est lui qui peut vraiment nous combler complètement, qui peut vraiment nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes et qui peut vraiment prendre soin de nous dans le secret de notre cœur et vraiment au plus profond de nous-mêmes. Parce que finalement, il y a aussi une caractéristique avec toutes ces choses. Même si je me fais tatouer la peau, on pourrait se dire ça va rester toute la vie, c'est pour ça qu'on le fait. Mais quand même, c'est éphémère. Les diplômes, eh ben ça va tant qu'on travaille, quand on est à la retraite, eh ben c'est plus quelque chose qu'on va prendre tellement en considération. Et puis la notoriété, on sait très bien que c'est quelque chose aussi d'éphémère, ça peut partir, ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc tout ça, c'est au fond éphémère, c'est branlant. Et donc, je pense que Dieu, il nous appelle à vraiment aller vers lui. Et puis, trouver en lui ce réconfort, cette reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qui dure jusque dans l'éternité, comme il nous le dit. Hein, voilà. Alors, ça, c'était ma première partie de témoignage. La deuxième partie, je l'ai appelée Et le monde s'est arrêté. Et ça concerne plus la pandémie Covid-19. Et voilà qu'au mois de mars survient l'inimaginable, l'impensable, un arrêt presque total de nos activités à l'échelle de la planète. Ce monstre que représente la mondialisation semble tout d'un coup déstabilisé, malmené par un petit virus invisible, pire que la pandémie de 2003, pire que la crise des subprimes de 2008, que le grounding de Swissair. D'un coup, nous avons été priés de rentrer à la maison et d'y rester confinés. Pour la plupart d'entre nous avons dû nous arrêter. J'ai dû m'arrêter. C'est bien la première fois dans ma vie que les autorités m'obligent, me forcent à rester chez moi. Mes amis, nous sommes nombreux à avoir fait alors l'expérience du vide. Le vide d'activités professionnelles, le vide des voyages, le vide d'activités festives et culturelles, le vide des autres, proches et moins proches, et pour certains, le vide que représente la mort d'un proche. Dans une des villes et un des pays les plus riches du monde, nous avons perdu un instant notre pouvoir d'achat, car il n'y avait plus grand-chose à acheter, si ce n'est le nécessaire. Juste par rapport au nécessaire, on a vu qu'en Suisse, on a connu, on connaît aussi des files d'attente pour des personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas assez à se nourrir et qui ont besoin qu'on les aide de ce point de vue-là. Donc, au Vernet, on a tous vu ces images de personnes qui attendent leur paquet de distribution. On voit aussi que MSF, Médecins sans frontières, finalement, elle commence à œuvrer chez nous et non pas à l'étranger. Médecins sans frontières, c'est chez nous qu'il y a des mesures d'urgence à prendre et des soins à apporter. J'entendais donc un reportage ce matin à la radio où on disait justement, oui, même en Suisse, maintenant, donc nous avons besoin d'intervenir. Nous avons donc tous fait l'expérience douloureuse de ce vide en forme de Dieu, comme l'appelle saint Augustin. Ce vide, nous n'avons plus pu, je n'ai plus pu le combler par la frénésie de mes activités habituelles. Dans un premier temps, j'ai été choqué. C'est la première fois en 30 ans de carrière d'enseignant, au cycle, que l'on m'enjoint à rester à la maison et sans rien pouvoir faire dans un premier temps, tellement le département de l'instruction publique a été pris par surprise. Bien sûr que dans un deuxième temps, il y a eu l'organisation du télétravail, comme dans de nombreuses entreprises, mais en tout cas pour moi, cela n'avait rien à voir avec le travail en présentiel. Tout à coup, j'ai eu du temps, et on s'est retrouvé plus ou moins isolé de ses collègues, de ses amis, de ses frères et de ses sœurs. Nous avons vécu à l'échelle planétaire ce que l'on peut ressentir lorsqu'on tombe malade. Oui, le monde est tombé malade en quelque sorte. Alors la troisième partie, je l'ai appelée le confinement chez soi, et ça traite plutôt de la question de comment j'ai vécu ce confinement à la maison. Alors, il y a un troisième passage que j'aimerais lire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 5, 6. Eh bien oui, quelque part, ce confinement, on peut l'apparenter à une forme de retrait, de retour, de retrait dans sa chambre, de retrait dans sa maison, où finalement on se retrouve un peu plus seul que d'habitude. Quand Jésus dit « entre dans ta chambre », cela me fait penser à cette phrase de Pascal qu'on a beaucoup entendue en cette période de confinement. « Tout le malheur de l'homme est de ne pas pouvoir rester seul dans sa chambre. » Eh bien, cette fois, avec le confinement, pas le choix, nous avons été forcés d'arrêter nos activités, de ne plus dépendre du regard des autres, de notre fonction, de notre travail. Et j'aimerais aussi dire, nous avons été privés de culte, de messages tous les dimanches. Nous nous sommes retrouvés dans un face-à-face avec nous-mêmes. Et donc, nous avons bien été obligés de composer avec. Je vais vous dire une chose, c'était dur dans un premier temps, mais peu à peu, je dois dire aussi que ça m'a fait du bien de ne plus aller nulle part. Même de ne plus aller le dimanche à l'église, même de ne plus continuer à aller dans les différents groupes de prière. J'ai pris conscience que je fonctionnais un peu par habitude, de façon automatique, par acquis de conscience. J'ai réalisé aussi que je courais le risque de me reposer un peu trop sur l'orateur, l'organisateur des réunions de partage, et sur son message les dimanches, en faisant l'économie de nos recherches personnelles par commodité. C'est finalement assez pratique, et ça évite une réflexion de fond et un travail spirituel personnel. Donc cette période de crise nous a obligés à nous retrouver face à nous-mêmes. Bob Sinclair, un célèbre disc-jockey français, a déclaré récemment à la radio que ce confinement lui avait fait énormément de bien et que ça lui avait permis de réaliser à quel point il était vraiment fait pour son métier de musicien. Il a pu aussi retrouver un souffle créateur, loin du regard des autres, souvent pesant quand on est célèbre. Nous pouvons aller plus loin en affirmant qu'en tant que chrétien, ce fut l'occasion non seulement d'un face-à-face avec soi-même, Salvateur, mais aussi et surtout un face-à-face avec Dieu. Et tout à l'heure, j'aime beaucoup ce chant qui dit « comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un souffle fragile ». Le souffle fragile, je ne sais pas si on peut tellement le sentir dans l'activité frénétique qu'il y a autour de nous, dans le bruit, dans le silence. Et dans le silence, peut-être qu'on peut discerner ce souffle et qui nous parle à notre cœur. Il est vrai que pour moi, ce temps d'arrêt a permis à renforcer mes convictions. Cela m'a fait aussi du bien, et je n'ai pas honte à le dire, d'avoir pu pour un temps me soustraire au regard des autres. Collègues, famille, hiérarchie, paroissiennes, paroissiens, pour ne plus rechercher forcément leur approbation, mais plutôt celle de Dieu, lequel ne juge pas, mais cherche à me faire comprendre, par l'intermédiaire de saint Paul, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand on est de nouveau, Dieu nous justifie une fois pour toutes. Si notre cœur nous condamne, autre verset, Dieu est plus grand que notre cœur. Parce que finalement, il y a le regard de l'autre, qui peut être un problème dans la hiérarchie professionnelle ou ailleurs, dans d'autres situations. Mais il y a surtout ce terrible regard de sa propre conscience. Qui n'a pas été souvent dans sa vie laminé par la culpabilité ? Nous ne sommes pas parfaits. J'ai des failles, et quand j'ai une faille, quand j'ai des imperfections, vous savez, l'idéal de l'évangile, c'est dur. disons, être dans la ligne, rester dans la ligne de l'évangile, rester dans la ligne chrétienne, c'est dur, c'est un combat. Et ben oui, ben, il y a des moments, il y a des failles, il y a des chutes. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que c'est dur de ne pas se culpabiliser? Finalement, ben, ce juge, moi, je suis peut-être le pire des juges pour moi-même. Et donc, j'aime cette phrase. Si notre cœur nous condamne, si ma conscience me condamne, des fois c'est peut-être bien, hein, je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement endormir sa conscience et puis continuer à aller dans tous les sens et pas faire le bien, mais je veux dire, quelque part, oui, on a cette assurance. C'est-à-dire que si mon cœur me condamne, ben, Dieu est plus grand que mon cœur, et puis ben, il a déjà tout fait hein, pour nous, il a donné sa vie, voilà, il nous a déjà sauvés, et voilà, donc c'est quelque chose disons, de super important à essayer de réaliser. Moi, personnellement, ça m'a permis, pendant ces temps de confinement, ouais, de quelque part, ben, voilà, de retrouver un peu un contact, peut-être plus profond, puis de réaliser combien c'est important, cet amour de Dieu et cette vie de Dieu en soi. Alors, j'arrive maintenant à la conclusion, j'espère que je ne suis pas trop long. La crise que nous avons vécue et que nous continuons un peu à vivre, malheureusement, comme la maladie est une épreuve qui nous isole. Mais cela peut être aussi une occasion à saisir pour nous retrouver face à nous-mêmes et aussi et surtout face à Dieu. Paul Claudel, écrivain catholique, a écrit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, mais la remplir de sa présence. » Que j'aime cette phrase. C'est-à-dire que les épreuves peuvent être autant de moments qui nous font progresser, pour autant que Dieu mette sa présence dedans. C'est vrai que très souvent, j'ai le réflexe de prier pour écarter tel bobo, telle maladie. Ben, finalement, peut-être que la maladie a aussi un rôle de pédagogue pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Et c'est vrai que dans toutes les opérations, j'ai eu trois opérations, une fois une opération très grave de la jambe, donc suite à une fracture très nette de mon tibia à ski, ensuite ben, deux opérations pour le pied. Et puis c'est vrai que dans ces moments-là, finalement, dans ces moments de convalescence aussi, c'est aussi des moments que je peux un peu apparenter ou comparer, disons, à la question du confinement. On se retrouve un peu seul, on se retrouve un peu démuni. Ça fait aussi du bien d'avoir des personnes qui nous téléphonent, tout d'un coup on est malade, des gens commencent à s'occuper de nous, commencent à demander comment on va et tout. Ça fait du bien de se faire un peu câliner, je vous dirais franchement. Et puis, ben voilà, dans ces moments-là, ça peut. Alors, évidemment, il y a des maladies qui sont terribles, je veux dire, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la maladie, mais ça peut aussi avoir un rôle, disons, pour nous faire progresser dans notre chemin spirituel. Alors, oui, j'existe même dans la solitude, même dans le dénuement. Il y avait aussi cette phrase dans Un souffle fragile, c'est-à-dire que finalement l'esprit aussi nous fait sortir de la prison, quelque part prison, confinement, je vois aussi un lien, c'est-à-dire que voilà, donc on est pas seul, c'est-à-dire qu'on peut aussi sortir avec cette présence de Dieu, on peut aussi être libre, même si on est confiné. Dieu est là, il me guette pour un face-à-face avec lui. Laissons-nous retrouver donc cette occasion, laissons-nous habiter par lui en cherchant sa reconnaissance plutôt que celle des hommes. J'aimerais conclure en demandant à Dieu de nous rendre capables de nous dépouiller de toutes nos bonnes œuvres, de tous nos diplômes, d'enlever tous nos tatouages réels ou symboliques, de nous mettre à nu pour qu'il puisse nous rejoindre dans le secret de notre cœur et nous montrer combien nous avons de la valeur, combien nous sommes précieux à ses yeux en tant qu'enfants de Dieu. Oui, vous et moi, vous tous ici présents, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Né de nouveau, c'est quand même une grâce extraordinaire. C'est un plus extraordinaire. Vous savez, je crois qu'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est la recherche de sens, c'est trouver un sens à sa vie. Alors, on peut peut-être se moquer en voyant ce gros motard tatoué sur sa moto Harley Davidson. On peut se moquer de la personne qui est tatouée de la tête jusqu'aux pieds. On peut dire oui, mais voilà, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, celui-là? Il a un petit poids dans la tête de faire un truc pareil. Qu'est-ce qui lui prend? Mais il y a ce besoin de trouver un sens. Je pense que le tatouage, ça permet aussi d'appartenir à une communauté. Ça permet de. On a besoin d'appartenir. Alors, nous avons cette chance d'appartenir à la communauté des croyants, des chrétiens. C'est vrai que la communauté, ça nous maintient, ça donne du sens. Hein, et vraiment. Et je pense que, bah oui, il faut. Ah, mais oui, ce Jésus, il donne du sens à notre vie. Vous en trouvez beaucoup de personnes qui vont vous dire. Oui, moi j'ai trouvé un sens à ma vie, je trouve du sens à ma vie, quand surtout dans des temps si difficiles où on se rend compte que toutes les entreprises humaines tout d'un coup s'arrêtent. Même la blouse blanche, même le médecin, il hésite dans ses diagnostics. Vous avez entendu parler du docteur Raoult, qui a fait un diagnostic totalement différent de ses confrères et qui maintenant passe devant un tribunal, devant une commission, parce que soi-disant que voilà, il a prescrit des choses qui étaient peu orthodoxes et qui pouvaient être dangereuses pour des malades. Donc, il y a Et aussi, vous avez vu les valses hésitations, notamment par rapport au port du masque, pas le port du masque, les distanciations, etc. Tout d'un coup, on réalise que même la communauté scientifique, parce qu'on a tendance aujourd'hui à mettre un peu la science sur un piédestal, d'en faire un dieu, eh ben, même cette communauté scientifique, elle n'a pas forcément les réponses à tout. Et voilà. Alors, trouver du sens que dans la communauté scientifique, que dans les entreprises humaines, je pense que c'est à nos risques et périls. Je pense que la vraie assurance, elle se trouve en Dieu. Et puis, c'est vraiment Dieu qui nous donne ce sens, qui nous permet d'exister, qui nous permet d'être bien, d'avancer fermement aussi sur notre route. Je prie aussi pour que nous puissions remplir ce vide en nous qui nous habite parfois par autre chose qu'un activisme routinier, mais bien plutôt par la présence de Dieu. Et un dernier passage en guise de conclusion. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je répète, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on parlait de choses éphémères, de choses qui passent. La figure de ce monde, elle passe, mais ma parole ne passera pas. Le Christ l'a dit, ça fait 2000 ans que ça dure, que cette parole, pourtant très peu politiquement correcte, vraiment, hein, donc par rapport au temps d'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont politiquement incorrectes, eh ben, elle continue, ce livre continue à se répandre, il continue à être traduit un peu partout dans le monde. Et donc, il avait raison. On ne peut que lui donner raison. Enfin, 2000 ans plus tard, cette parole, elle est toujours là. Est-ce qu'on peut dire ça de tous les écrits qui ont été faits il y a 2000 ans? Alors, vous savez, on a des fois des bribes d'historiens de l'Antiquité, mais de loin pas tout nous est parvenu. Donc, on a des bribes. Et après, il faut recomposer, il faut utiliser l'archéologie pour essayer de reconstituer l'histoire d'une population, d'une époque. Mais là, quelque part, cette Bible, vraiment, elle a été conservée, elle a été traduite par des copistes fidèles qui ont perpétré cette parole qui est venue jusqu'à nous. Mais c'est vrai que c'est une bénédiction extraordinaire. Donc, le monde passe. Bah, peut-être que... Je ne vais pas dire que le monde, en ce moment, est en train de passer. Peut-être qu'un certain style de civilisation est en train de disparaître pour être remplacé par une autre. Il y en a plusieurs qui le pensent. Moi, je commence à le penser aussi. Je pense qu'on est à un point charnière. Et puis qu'il y a des choses vraiment fondamentales qui vont changer. Je ne pense pas qu'on va retrouver le monde d'avant complètement. Je pense qu'il va y avoir D'ailleurs, on voit déjà, hein, c'est à l'œuvre, des changements dans le monde du travail et tout ça. Donc, mais oui, l'Empire romain, à un moment donné, il a disparu. Les Grecs également. Quand on voit aussi Saint-Empire romain germanique a aussi disparu. Quand vous voyez aussi le communisme russe, qui aurait pu imaginer tout d'un coup qui est la chute du mur et que tout ce monde communiste s'effondre d'un coup sans qu'il y ait de guerre, sans qu'il y ait d'intervention étrangère. Tout d'un coup, tout ça s'est effondré et on a passé à autre chose. Alors je dirais maintenant... le problème, c'est cette mondialisation. On a été un peu trop vite en pensant que, voilà, puisque ce système communiste a échoué, donc finalement, bah, c'est le capitalisme triomphant qui marche de sa plus belle manière. Mais je pense que là aussi, il y a un danger. Moi, je dirais aussi, même cette mondialisation et ce capitalisme, ben, il peut aussi être mis en question et disparaître. Alors voilà, je ne le souhaite pas forcément, mais je pense que ça peut aussi être salutaire pour un changement de paradigme. Donc là, on voit épreuve au niveau collectif, comme la maladie au niveau personnel, ça peut peut-être nous faire évoluer vers un monde un peu différent. Regardez, moi je suis un cycliste de la première heure. Je suis très heureux de voir qu'enfin, on nous écoute un peu plus. Enfin, on commence à mettre un peu plus de pistes cyclables à Genève. Alors bon, je sais que ça va faire tout le monde. Bon, ça, je vous dirais que moi, ça ne m'a jamais trop dérangé pour l'instant. Mais voilà, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles, à vélo, qui ont moins de sens d'équilibre peut-être, qui ont peur et qui sont rassurées d'avoir peut-être ces grandes bandes cyclables. Voilà. Mais... Vous voyez, tout d'un coup, on se pose plein de questions en termes écologiques. Alors moi, j'ai évolué en termes écologiques. Je vous assure que j'écoutais pas trop, j'écoutais d'une oreille, mais j'étais pas très attentif. Mais maintenant, oui, il y a aussi un péril. Si on continue avec la même façon de vivre, il y a un péril dans la demeure. On risque d'aller dans le mur. Enfin voilà, je vais pas épiloguer et je vais m'en tenir là. Donc, j'aime bien cette phrase. Jésus n'est pas venu pour juger ce monde, mais d'abord pour le sauver. Voilà, c'est ça aussi, hein, cette phrase magnifique. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais d'abord pour le sauver. Donc, ce monde a bon dos, on peut très bien le critiquer, on peut très bien prendre ses distances avec. Mais je crois que notre rôle, c'est d'être dans le monde sans être du monde. Et puis, Dieu n'abandonne pas ce monde. Je pense que Dieu aussi, même à travers cette pandémie et tout, je pense que voilà, il veut lui parler. Et puis, Jésus a donné sa vie pour ce monde. Moi, j'ai fait partie du monde. J'étais à plein dedans, hein, je veux dire, comme tout le monde. En étant pécheur, ben, il a donné sa vie justement pour que je puisse être sauvé. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais finir par ça. Et donc, quelques questions pour un partage. Ça, c'est la suite. Alors, première question. Comment ai-je vécu ça? Je pense qu'on a déjà dû vous la faire dans les différents groupes de prière, donc on va remettre encore une couche. Comment ai-je vécu le confinement? Cela m'a-t-il rapproché ou plutôt éloigné de Dieu? Deuxième question. Suis-je conscient de ma valeur aux yeux de Dieu? Et comment cela se manifeste-t-il? Troisièmement, quels sont mes dons que je peux, que je pourrais faire valoir pour servir Dieu? Voilà trois questions pour un partage. Et pour ma part, j'en ai terminé. Amen.